Radio Panique, on sait tous que tu nous écoutes. Panique pas, t'es sur Radio Panique.
Bonjour et bonsoir sur Radio Panique. On s'accueille et on se fait une émission autour d'un film. Les ateliers urbains se racontent. On va parler d'un film qui s'appelle Escapade chez les escapés. Un film qui a été coproduit par le Centre Vidéo de Bruxelles et le Syndicat des Immenses. Alors on va apprendre rapidement de nos invités qu'est-ce que le Syndicat des Immenses. Et on en profite un petit peu pour parler de notre projet, puisque nous l'avons réalisé ensemble, d'un film collectif. Donc c'est particulier, un film d'atelier, le faire à plusieurs. Alors, le film, il a été fait par une douzaine de personnes, mais on en accueille quelques-unes ici, et qui sont donc des co-réalisatrices, réalisateurs du syndicat. Je vais donner la parole à notre doyen, Daniel, bonjour.
Oui, je m'appelle Daniel Rivet, donc je suis membre des Immenses depuis 3-4 ans, et j'ai eu le plaisir donc, de participer au film.
Alors, nous a accompagné aussi Charles.
Oui, moi c'est Charles Putvils. Je suis un électron libre parce que j'appartiens pas ni au CVB ni aux Immenses, mais j'étais très ravi de participer au film.
Martin. Bonjour, moi c'est Martin et je suis membre aussi du syndicat des Immenses depuis à peu près 2-3 ans aussi.
Jonathan, qu'on a déjà entendu quelques fois sur Radio Panique.
Bonjour. Ben voilà, moi je me considère comme un immense capé aujourd'hui. Je suis au Syndicat des Immenses depuis un peu plus de 4 ans. Je suis écrivain poète.
Voilà, ce film Escapade chez les escapés, on a des dates pour le sortir. Donc on est à la radio aussi pour vous y inviter à venir le voir avec nous, à venir débattre, à venir rencontrer aussi les Immenses, les membres du syndicat. Ce sera la grande première, ce sera au cinéma des Galeries, mercredi 22 novembre à 18h30. Si vous voulez en être, envoyez un petit mail, réservation au pluriel, @cvb.be. Et on en a une seconde aussi au cinéma Aventure, lundi 27 novembre à 19h, c'est au centre-ville, cinéma Aventure. Et puis simplement, ce film, il est aussi un peu, c'est un film de service public, hein, il est pour tout le monde. Donc vous pouvez aussi tout à fait réclamer de faire une projection dans votre association, votre maison de quartier, etc. Faire un film avec le syndicat des Immenses, c'était un petit peu notre idée au CVB. Moi, je suis travailleur au CVB. Mais alors, je vais quand même vous demander un petit peu de pouvoir expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce que c'est le syndicat des Immenses ?
C'est un groupe d'action qui milite pour des droits qui sont essentiels, comme le droit au logement, le droit à la dignité, le droit à l'accès aux soins et à tout ce qui est ce qui est essentiel à la vie de tous les jours et que beaucoup de personnes n'ont pas dans les rues de Bruxelles pour rester juste sur Bruxelles. Quoi. Donc le syndicat des Immenses, c'est un groupe d'action.
Mmh. Ouais, je me permettrais d'un peu en ajouter un peu. C'est que depuis que je suis membre des Immenses au début, donc vous êtes effectivement destiné aux sans-abri, je dirais. Et depuis, de par la force des choses, ça s'est étendu à la défense des personnes vulnérables, disons en général. Donc à savoir les personnes handicapées, les personnes malades mentales, les personnes âgées dépendantes. Donc ça s'étend finalement quand même de plus en plus.
C'est aussi, oui, aux personnes qui souffrent des problèmes financiers, des problèmes sociaux, qui peuvent tomber dans la précarité.
Ou qui le sont tout simplement tombés.
Mmh. Oui. Ok, et alors, c'est immense, c'est un néologisme.
C'est un acronyme.
Acronyme de individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence.
Il faut digérer ce mot-là, ok, oui. Mais non sans exigence. Donc ça veut dire qu'il revendique, quoi. Qu'il y a, c'est... Oui. Et alors.
Hors des revendications, défend les droits des immenses, comme l'a dit Jonathan.
Au syndicat, on utilise aussi le mot « sans chez soi » pour remplacer « sans-abri » SDF, qui sont des mots vraiment, vraiment fatigués.
Oui, le terme « sans chez soi » a été introduit pour bien manifester le fait qu'il est donc important d'avoir un toit, mais que, je dirais même rien que politiquement, ça ne suffit pas. Et c'est souvent, on compte comme ça, on dit « tiens, quel est le nombre de personnes qui sont sans toit au-dessus de leur tête ?» Mais il faut tenir compte aussi qu'il faut évidemment un minimum de confort et tout ça en relation avec finalement l'identité des gens. Parce qu'il est très important que les gens aient leur identité et leur dignité. Et c'est de là qu'est parti le terme de sans-chez-soirisme par rapport au terme de sans-abri.
Si je peux ajouter, c'est les personnes qui sont en foyer d'accueil, ils ont un toit au-dessus de leur tête, on est d'accord. Les personnes qui sont chez leurs parents ou les parents qui sont sur leur... Chez les enfants, ils ont un toit aussi sur leur tête. Chez les amis, ils ont un toit sur leur tête. Mais ce n'est pas leur clé, ce n'est pas chez eux, ce n'est pas leur salle de bain, ce n'est pas leur toilette, ce n'est pas leur cuisine. Donc, on préfère plutôt parler de sans-chez-soirisme que de sans-abrisme. Parce qu'on peut avoir des abris et ne pas être chez soi. Donc, d'où le mot, le sans-chez-soi, le sans-chez-soirisme.
Vous en avez beaucoup des mots comme ça, là ?
Près de 150.
Donc il y a vraiment un travail sur le vocabulaire aussi pour arriver à mieux comprendre, mieux se rapprocher des situations que vivent les personnes. Quoi.
Oui, le syndicat a sorti ce qu'on appelle le thésaurus de l'immensité. Et ça permet d'utiliser les bons mots par rapport aux différentes situations.
Oui, c'est enfin voilà, avec Charles, toi et moi, tu es très timide, Charles, mais tu n'hésites pas à renvoyer des questions aussi. Toi et moi, on s'est quand même approché pour pouvoir faire ce film du syndicat des immenses. Et enfin, ils ont des pratiques tout à fait particulières, comme cette récupération du langage en créant son propre vocabulaire et tout ça.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très sympathique. De créer ce langage qui leur correspond et c'est assez dynamique et lors de nombreuses séances on leur demande de trouver des mots et tout le monde participe et je trouve que c'est un des aspects qui est très attirant dans ce mouvement.
Est-ce qu'ils ne t'ont pas un peu contaminé ? Parce que j'ai l'impression que le titre du film dont on parle dans cette émission, « Escapade chez les escapés », que c'est un peu une trouvaille de toi. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui compose le titre de ce film ?
Mais j'ai voulu jouer sur les mots. Les escapés, c'est aussi un terme du thésaurus. Sur l'instant, je ne me rappelle plus.
Je peux vous lire la définition de escapé sur le site du syndicat des immenses. C'est un verbe qui signifie décompresser, se déconnecter, se ressourcer, se vider la tête, se distraire. Non.
Ça, c'est soupapé.
Je suis en train de dire escapé, là.
Non, escapé, c'est enclos dans le système et capable périodiquement et aisément de pouvoir s'en échapper. La définition que tu as prise, c'est soupapé.
Ok, mais je suis en train de dire escapé, mais du coup...
Ah, il y a une erreur d'encodage, alors. C'est ça. C'est des linguistes, hein, t'as repéré que c'est précis. Donc, être capable de s'en échapper, et ça décrit quel groupe de personnes, alors, selon toi, ces escapés ?
Les escapés, c'est d'une manière... c'est une façon d'appeler les riches, les nantis, et les...
Bon, les riches et les nantis, ce sont les trescapés. C'est encore un peu différent. Les escapés, ce sont des personnes qui ont un logement, qui ont un travail, que familialement parlant, ben, il n'y a pas eu vraiment de gros accidents de vie dans leur famille. Donc, de fil en aiguille, de génération en génération, ce sont des gens qui puissent correctement déménager tout en restant avec une stabilité dans leur vie. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ne sont pas assujetties à tomber dans la rue comme beaucoup. Donc les escapés peuvent devenir immenses du jour au lendemain, sans chez soi du jour au lendemain, juste pour une erreur, un mauvais mariage, un mauvais divorce, ou que sais-je. J'ai tellement de raisons à ce que les gens puissent tomber dans la rue, surtout dans un système capitaliste qui est système belge. Donc tout est tourné autour de l'argent. Donc si du jour au lendemain, d'une manière ou d'une autre, vous avez une petite dette qui vous vide votre compte en banque, et c'est le premier loyer que tu n'arrives pas à payer, puis le deuxième, puis le sixième mois, et puis tu te retrouves juste avec un système judiciaire qui est derrière et tout. C'est toute une grosse machine qui fait en sorte qu'on te pousse de plus en plus et de plus rapidement dehors. Donc un escapé, c'est pas quelqu'un qui va ne jamais connaître la rue. C'est quelqu'un qui peut éventuellement connaître la rue s'il ne fait pas attention là où il met ses pieds.
C'est une question qui nous a... Oui, le 13 capé s'en sort très bien.
Le 13 capé, on dit qu'il y a peut-être une moyenne de 3% de personnes sur les 11 millions d'habitants en Belgique. Il n'y a peut-être que 3% de personnes qui sont 13 capés. Pour nous, le roi est un 13 capé. Le roi Albert est un... pardonnez-moi, Philippe. est un 13 capé. Pour ne pas le citer, notre cher secrétaire est un 13 capé. Donc les 13 capés, il y a beaucoup d'escapés qui se croient 13 capés, mais ils ne le sont pas. Donc les 13 capés, c'est vraiment des gens qui ont la probabilité nulle de tomber dans la rue.
Ben, merci beaucoup Jonathan pour ces explications dont je ne connais pas toutes les subtilités.
Oui, mais il est clair que dans la période qu'on vit maintenant, avec la crise qui rentre dans sa phase de plus en plus aiguë, que ces nuances prendront toute leur signification, évidemment.
On va revenir sur les composantes un peu sociales qui sont abordées dans le film. Moi, je vous propose, maintenant qu'on a dressé le tableau sur le syndicat des immenses, de s'écouter un petit morceau. Et on vous propose Maktoub d'Aziz Samhaoui et University of Gnawa. Maktoub, à ma connaissance, ça veut dire le destin. اليمنة واليسرى رواية القصف تحكي مكتوب مكتوب ولا عمدة جاوة جنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة السماء لا ترى وما لها تمطر جمرا ما للرب هل عطرا أم في الأرض مختبرا ما دنبينا الأخرى وما العبرة فيما جرى للنور تفجرا وما له ولما هجرا مكتوب مكتوب ولا عمدة جاوة جنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس مكتوب مكتوب ولا عمدة جاوة جنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة
sur Radio Panique avec une partie de l'équipe des personnes réalisatrices donc du film Atelier Escapade chez les Escapés, coproduit par le CVB, le Centre Vidéo de Bruxelles, et le Syndicat des Immenses. Alors peut-être, on a envie de savoir un peu de la trame de ce film Atelier, à qui je peux poser la question. De quoi ça parle? C'était quoi l'envie?
Alors, en tant qu'animateur cinéaste, je peux parler un petit peu de la genèse. Moi, je savais qui était le Syndicat des Immenses et je trouvais que c'était... On cherche toujours à faire des films participatifs avec des publics qui sont particuliers, avec des publics qui vont saisir l'opportunité d'un projet socioculturel, qui vont s'exprimer dedans. Et moi, j'avais envie de leur donner un challenge artistique. Souvent, les ateliers urbains, ils ont parlé d'un quartier, de ses problématiques, de les décortiquer, etc. Et là, je sais pas, il y a l'été qui arrivait et je me suis dit, en fait, on va essayer pour une fois d'aller à l'extérieur. On ne va pas regarder les quartiers pauvres et denses du centre-ville. On va les regarder de l'extérieur. Et le Syndicat des Immenses, ça serait un très joli contre-pied d'avoir des gens qui s'organisent pour regrouper, représenter la parole des précaires et d'arriver à donner un avis sur ces inégalités, mais insondables, incalculables à Bruxelles. Tout le monde sait qu'il y a des beaux quartiers à Bruxelles, mais... ça a beaucoup de dimensions différentes au niveau de la santé, au niveau des droits sociaux. Si tu vas dans un CPAS à Uccle, t'auras moins de files d'attente que dans un CPAS à Laeken. Et c'est valable vraiment pour tout, hein, le nombre de parcs, le calme que tu peux avoir autour de toi, la chance que tes enfants auront d'être dans une école de qualité ou dans une école surpeuplée. Ce genre de choses sont les inégalités environnementales. Et à mon sens, c'était vraiment le thème qu'on a proposé. Cela dit, les Immenses, on leur propose un jouet artistique et puis ils tirent de tous côtés, ils en font plein de choses, etc. Et donc c'était plutôt marrant. Et du coup, ça pourrait aussi être la possibilité de vous poser la question sur est-ce que ça vous a parlé, en fait, qu'on arrive à parler des beaux quartiers. Pour toi, Martin, par exemple, tu connaissais bien les beaux quartiers. Tu faisais du sport.
Il veut passer la parole à une autre personne. Ouais.
Ben alors on peut voir peut-être comment on a enquêté, parce que faire un film sur les quartiers riches, c'est s'exposer au risque qu'ils n'aient pas envie d'y répondre. Hein, toi, t'as du fric, Arthur?
Beaucoup.
T'as combien dans ta poche? Tu me payes un verre?
Je n'ai pas. J'ai
tu vois, t'es déjà gêné quand je te pose la question de t'as combien d'argent. Et donc, ça n'a pas été évident. Et avec Charles, qui a vraiment co-réalisé le film en premier lieu, qui assistait vraiment à la réalisation, on a commencé en fait par se poser la question de pourquoi les quartiers riches n'accueillent pas beaucoup de logements sociaux, c'est ça?
Oui, oui. Et là, on a directement commencé à avoir une interview avec le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Sorex. Et c'était intéressant parce qu'il a directement montré son point de vue, dans ce sens que les beaux quartiers n'ont pas tellement envie d'accueillir des gens qui ne leur conviennent pas, parce que ça les gêne. Et ils n'ont tout simplement pas envie de les voir. Ils sont d'accord qu'ils soient accueillis, mais alors dans d'autres régions que les leurs.
Ben là, moi, j'ai particulièrement apprécié ton travail, parce que c'est assez courageux d'aller chercher comme ça un bourgmestre de centre droit qui est bien campé. On va l'écouter tout de suite et il est suivi d'une rencontre que tu as fait aussi avec Carole Dumont du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. C'est un extrait du film.
C'est un quartier où les revenus sont très élevés. Ce sont des gens... qui vivent, ce sont les beaux quartiers de Bruxelles, et donc avoir dans son backyard le phénomène NIMBY, donc d'avoir quelque chose qui ne plaît pas dans l'arrière-jardin, voir des pauvres et ne pas savoir ce qui peut se passer, et peut être sujet d'inquiétude.
Ça, c'est des problèmes auxquels on est confronté, et je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de phénomène NIMBY, mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'une région comme Bruxelles a aussi besoin de territoires, de lieux où la classe moyenne peut rester, parce que ça finance le reste de la région bruxelloise. Et moi, je suis fier d'avoir une population qui a une capacité contributive et qui est solidaire des autres quartiers et d'autres communes à Bruxelles, notamment au travers de tous ces mécanismes de redistribution. Donc il est nécessaire de conserver aussi une classe moyenne à Bruxelles, et pour ça, je dois continuer à offrir une qualité de vie à mes habitants.
Salut.
Bonjour Charles.
Comment vas-tu?
Bien.
Carole, ça va?
Ouais. Ben voilà, c'est un terrain de 9 hectares quand même, donc une belle réserve foncière publique. Voilà, donc un des derniers terrains sociaux à Bruxelles sur lequel on essaye de construire du logement social depuis plusieurs dizaines d'années.
Ouais. Donc,
on a raboté de plus en plus en fait le nombre de logements à construire ici, et on aboutit à 120 logements sociaux sur près de 10 hectares en fait. Donc c'est affolant au niveau densité à quel point on est dans un projet où on aurait pu construire donc beaucoup plus en fait. Ce qui est précieux avec ce terrain-ci en particulier, c'est que c'est un terrain où on a la maîtrise foncière publique, donc qui appartient en fait au pouvoir public. Ici, à Woluwe-Saint-Pierre, c'est impossible d'acheter des terrains parce que les valeurs sont vraiment extrêmement élevées. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable de permettre à des gens qui aujourd'hui vivent dans des quartiers beaucoup moins privilégiés de connaître aussi finalement cette qualité de vie que les personnes ici veulent conserver jalousement. Et alors ce qui est particulièrement inacceptable aussi, c'est le fait que dans des communes comme celle-ci, on a déjà à la base très très peu de logements sociaux en fait. Et la région, en tout cas son discours officiel, c'est de dire « Ah mais il faut absolument tenter de rééquilibrer la répartition des logements sociaux à Bruxelles. Il faut aussi au niveau de la dynamique de production créer partout, construire partout dans toutes les communes. » Et ici en fait on fait tout à fait le contraire. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que la région n'arrive pas en fait à imposer ses priorités sociales à des communes qui ne les partagent pas, comme la commune de Woluwe-Saint-Pierre.
Voilà, donc extrait du dernier film des Ateliers Urbains, qui va bientôt sortir au cinéma. C'est des films pour se poser la question de comment on fait la ville, de la justesse, de l'urbanisme, etc. Donc ici, cette interview, Charles... Elle permet de... Ben voilà, la témoin Carole Dumont, elle nous parle de protéger jalousement ces quartiers. C'est quelque chose que tu as pu voir dans l'enquête.
Mais ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y a une possibilité énorme de pouvoir bénéficier d'un terrain relativement important dans la périphérie, dans les beaux quartiers, juste à l'orée de la forêt de Soignes. Et tout est fait pour que ces terrains ne bénéficient pas à une population qui serait pourtant très heureuse d'y habiter et qui connaîtrait un environnement plus agréable que ce que la majorité des gens dans les mêmes conditions vivent. Et c'est assez choquant. Maintenant, ça fait 40 ans apparemment que cette situation persiste. Et le danger serait que ça passe à produire très peu de logements sociaux. On parle de 120 logements sociaux, alors qu'il y en avait 1000 qui étaient prévus au départ. Mmh. Et donc, je trouve ça assez désolant, parce que c'est vraiment le dernier territoire important sur lequel il y a encore moyen de produire des logements sociaux. Et ce serait
un environnement très sympathique pour les gens qui ont des difficultés à vivre dans de bonnes conditions. Et il y aurait tout pour qu'une partie de la population qui demande ce type de logement soit satisfaite.
Et Martin et Jonathan, est-ce qu'au syndicat des immenses, on attend encore les logements sociaux?
En tout cas, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui se construisent du côté des AIS, des logements sociaux. Je suis de nouveau dans un nouvel appartement qui vient de sortir du sol. Donc, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur trois
des
déménagements.
Appartements privés socialisés, oui.
Et voilà, ça, ce sont plutôt des logements privés socialisés, comme tu dis. Hein. Les AIS sont des agences immobilières sociales. Mais de là à parler de logements proprement dit sociaux, on n'attendait même plus une place, au fait. Même une place, on n'y rêve même plus. On va même plus. La plupart des personnes qui doivent s'inscrire, quand on leur dit, vous savez, entre 10 et 16 ans d'attente, ça refroidit, quoi.
Oui, si je peux me permettre d'intervenir, je dirais tout est un peu un problème conjoncturel. Ça, c'est une chose, et ça dépend fort d'une commune à l'autre. Et ça soulève un peu le problème, parce que ça me concerne à moi. Mais si on parle, par exemple, de construire des immeubles sociaux, la construction implique la suppression d'espaces verts. Et par exemple, le fait d'avoir des espaces verts, c'est quelque chose qui fait un minimum le renom de la commune, finalement, auquel le bourgmestre tient à pouvoir maintenir de se faire taxer, d'avoir une commune verte. Et ça, on ressent manifestement, évidemment.
Une défense du bien-être.
Ben oui.
Je pense, toi, tu es allé avec Rislaine aussi, qu'on écoutera tout à l'heure, mais interviewer des députés au sujet de la répartition de l'habitat populaire à Bruxelles. Quel souvenir est-ce que tu en gardes?
Oui, ben on a été au Parlement. Bon, je dirais que les gens ont répondu assez poliment et de façon assez politique, je dirais. Ça veut dire que les gens vous donnent relativement raison et disent qu'effectivement, ce qui les concerne, tout est fait pour le mieux, pour essayer d'arranger au mieux la situation. Quoi, mais
ils parlent quand même d'une résistance sociopolitique des communes riches qui veulent pas. Ils disent le logement social, le logement abordable, on en construit quand même dans des quartiers plus populaires, Mille Bruxelles, Neder-Overeembeek, Anderlecht. Mais qu'on les refuse. Et je me souviens qu'il y a un député qui dit « on a peur du pauvre ».
Eh bien oui, ça c'est le...
C'est luxe, si je me souviens bien.
Ah oui, ça rejoint un peu la remarque que j'ai faite au départ, des espaces verts qu'on essaye de préserver parce que c'est un indice de bien-être pour la commune. Quoi. Et effectivement, il y a cet aspect-là et qui fait qu'il y a, au niveau de Bruxelles, des inégalités territoriales qui naissent comme ça, de problèmes conjoncturels et des problèmes historiques aussi, évidemment.
Charles, dans ta vie, tu as été passionné, mais aussi travailleur dans la question urbanistique. Est-ce que tu serais d'accord avec le terme d'égoïsme urbanistique dans les beaux quartiers?
J'avoue que je ne comprends pas très bien cela. Ça veut dire qu'il y aurait des quartiers qui seraient, des beaux quartiers qui seraient réservés à une classe aisée et que les gens qui n'ont pas accès à des conditions favorables ne pourraient pas en bénéficier. C'est ça que signifie l'égoïsme urbanistique.
Ouais, je te demande quelle est la perception que tu en as. Qu'est-ce que tu as vu? Si c'est pas ce mot-là que tu mettrais. C'est des terrains de privilège. C'est aussi quelque chose peut-être qui a des sources historiques.
Oui, moi j'utiliserais plutôt ségrégation spatiale parce que égoïsme urbanistique, ce serait remettre. Non, c'est un terme intéressant. Je verrais plutôt ségrégation spatiale et une différence très marquée selon qu'on se trouve dans des quartiers populaires ou dans des quartiers bénéficiant de bonnes conditions et où il y a plus d'espaces verts, de qualité de vie, de services d'enseignement, d'hôpitaux.
Donc ces beaux quartiers, il y a un certain partage, mais on n'a pas trop envie de voir la pauvreté, la précarité.
Je crois que les gens qui vivent là n'ont absolument pas du tout envie de voir des gens qui ne sont pas de leurs conditions sociales. Pardon. Et donc, c'est, pour eux, c'est exclu qu'ils soient dérangés par une population qu'ils veulent bien croiser lorsqu'ils se baladent peut-être dans le centre-ville, mais surtout pas à leur porte.
D'ailleurs, dans le film, il y a quelques scènes où on se rend compte que... Enfin, on n'a pas parlé du dispositif quand même, de comment vous explorez la ville et ses quartiers. Vous le faites en camionnette, en van en fait. Un peu comme si vous partiez comme ça en camping à la découverte de territoires.
On a aussi beaucoup marché, hein, n'est-ce pas Daniel?
En tout cas, vous mettez en avant ce dispositif. Et effectivement, il y a des fois où en fait, vous vous arrêtez dans des endroits où très vite, vous ne faites pas partie du quartier. Et on vous le fait savoir. Quand tu parlais de ségrégation spatiale, j'ai l'impression que c'est assez bien documenté dans le film, parce que dès que se met, voilà, dès que des gens qui n'ont pas été dans ce quartier y sont, on vous fait comprendre, les gens qui y habitent, les services de sécurité ou autres, que faites-vous là ?
Je vois très bien ce que tu veux dire, Arthur. Je vois, je vais éviter de spoiler, mais... Effectivement, il y a certains endroits dans le film où ça se voit, mais moi, en tant qu'immense capé, ancien immense, profondément dans la rue, hein, j'ai quand même passé 12 ans dans la rue, il y a vraiment des endroits où tu vas t'asseoir 5 minutes et on va bien te faire comprendre que tu peux partir, quoi. Mm-hmm. Et c'est d'un radical assez rapide, en plus. Donc, on appelle les forces de l'ordre, allons-y gaiement, tu dégages, quoi.
Oui, et puis ils ont un vocabulaire hein, par rapport à ça. Il y a une présence. S'il y a une personne sans chez soi qui reste dans un abri de bus ou quoi, parce qu'il pleut, ça va être les policiers ou les citoyens avec les policiers. Oui, il y a la présence au coin de la rue machin. C'est vraiment.
Peur, ils parlent beaucoup de peur du sans chez soi ou la peur de la personne qui est mal habillée ou qui a le malheur de fumer sa cigarette ou qui est une roulée et pas une Marlboro, quoi. Donc.
Je propose qu'on revienne sur ce sujet-là aussi avec le témoignage de Rislaine qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qu'on salue. Et on va écouter ça tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être sur l'apport de Daniel. Daniel, c'est un grand allié des immenses qui est là vraiment pour défendre les points de vue du syndicat des immenses. Ici, je me souviens que tu nous as dit, mais quand je prends le tram, je vois ces inégalités territoriales. Et donc ensemble, on a décidé de faire une séquence en tram qui donne la voix au point de vue de Daniel.
On écoute.
Depuis Louise pour me rendre vers Lacan, l'UNIF, Watermal-Wafford, et puis les deux évoluer. Au long du tram 8, la population devient à majorité de type européen. On ne sent pas l'absence d'éclectisme. Les expats sont là. Les riches immigrés sont ici aussi dénommés des expats. Mais l'unicité se fait sous les styles, les marques de sac à dos, les manières de parler le français, l'anglais ou le néerlandais des bonnes écoles. Ce que j'aime à ma ville, c'est que plus qu'ailleurs, des étrangers choisissent Bruxelles comme terre d'accueil. Nombre d'entre eux pour des raisons professionnelles, les travailleurs de la communauté européenne, par exemple. Souvent d'autres décident de regrouper leur famille. D'autres encore pour trouver la protection sociale et améliorer leur situation matérielle. Et c'est selon leurs moyens qu'ils s'installeront dans des quartiers cossus. Et puis tous les autres, dans des zones où la structure urbaine fournit des loyers les moins inabordables, où la vie chère est compensée par des opportunités de gagner leur vie.
Voilà, et tu nous amènes jusqu'à Tour et Taxi sous cette voie, les images et les sons qu'on entend, ce sont les travaux de construction d'un nouveau quartier à Tours et Taxy. Qu'est-ce que tu as voulu dire en disant on s'installe selon les quartiers, etc. Comment est-ce que tu ressens la ville?
Mais tout est conjoncturel et dépend des conditions. Enfin, pour moi, j'ai 76 ans, donc ça veut dire qu'il y a quelques générations, et quand je vois, disons, tout ce qui s'est passé à Bruxelles, il y a eu historiquement des tas de transitions aussi intéressantes les unes que les autres. Mmh. Et maintenant, la transition qui est la plus importante, c'est évidemment l'évolution de la diversité ethnique et d'ethnies qui sont implantées tout à fait naturellement dans ces quartiers, dans des quartiers bien déterminés.
Ce qu'on appelle l'internationalisation aussi, l'arrivée de l'Europe et des expats, tu le dis dans cet extrait.
Oui, par exemple. Et maintenant, je dirais, ce qui est le point le plus important, c'est le problème du logement, finalement. Et alors, on se trouve dans cette conjoncture de cette multinationalité à Bruxelles, et alors en même temps, qui est, disons, représentative aussi un peu du niveau social de ces espèces ethniques, je dirais. Et tout ça intervient, évidemment, pour parvenir à concilier et à ce que le vivre ensemble soit le plus favorable possible. Alors, mon point de vue comme personne âgée, je dirais bien qu'à Bruxelles, on y parvient drôlement bien. Finalement, je trouve fantastique quand je vois surtout l'évolution, et je me permets de faire ce petit témoignage, c'est qu'étant âgé de 75 ans, et que, par exemple, quand j'étais quête, donc tout petit, je dirais quand il y avait une personne de couleur qui passait dans le quartier, eh bien on me faisait traverser la rue, parce qu'on disait, voilà, c'est quelqu'un, voilà. Et donc ça, c'était quand j'étais très jeune. Il y a eu plus tard, j'ai vécu l'exposition de Bruxelles en 58. Et là, par exemple, il y avait ni plus ni moins, en dessous de l'Atomium, un village noir. Donc, puisque le Congo était à ce moment-là encore...
Ouais, c'était toute une découverte, quoi.
Non, l'important que je voulais dire, ça voulait dire que... On admettait que lors de cette exposition, donc, et la Belgique, le Congo est en colonie belge, qu'on présentait un village noir au pied de l'Atomium, donc sur des nattes avec un peu de terre, et qui se livrait donc à leurs activités.
Ça te fait réfléchir à quoi aujourd'hui, que aujourd'hui les origines, les classes sociales, elles sont ensemble?
Eh bien, exactement. Exactement, et je trouve exactement remarquable qu'actuellement, ces aspects-là ont tout à fait, ou très 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 fort, disparu. Et depuis que j'ai fait le film, c'est un peu devenu une marotte, parce que comme on m'a fait circuler en essayant de faire apparaître certaines... différence de territoire, finalement, en faisant le parcours en transport en commun, bien, je suis arrivé à ce que... Donc, ces différences de nationalité, eh bien, ça ne choque, mais alors absolument, absolument pas. Mais il a fallu du temps, quand même, parce qu'il y avait un moment où ça provoquait des tensions, mais ces tensions, ce sont, je dirais, je trouve ça fantastique, fortement, fortement atténuées. Okay. Et je vois, par exemple, des quartiers entiers où les ethnies différentes vivent tout à fait ensemble et vivent à leur manière, finalement.
Je crois qu'on a bien compris, mais et les différences entre les beaux quartiers alors et tous ces quartiers, tous ces autres quartiers à Bruxelles où on vit tous ensemble. Est-ce que tu as vu moins de différences d'origine, de différences sociales dans les beaux quartiers visités, ou comment ça se passait?
Ben oui, Je dirais évidemment, si on parle au point de vue des ethnies, de toute façon, il y a cette diversité au niveau
Donc elle existe aussi dans les beaux quartiers, dans la diversité d'origine.
On l'a souligné à plus d'une... On l'a déjà souligné lors de ce reportage, donc qui avait des endroits où il y avait des écoles où il y avait beaucoup plus de personnes
très très blanches,
D'origine européenne, d'origine belge par rapport à d'autres quartiers où c'était dans certains quartiers tout à fait exactement le contraire.
On voit donc grâce à ces séquences, je pense qu'on doit avancer un petit peu dans le prolongement. Je vous propose d'en écouter une autre on est du côté de l'hippodrome de Boisfort, donc ceux qui le fréquentent savent qu'on peut l'appeler Drôme. Et on voit là, à l'arrière-plan, des terrains de golf, et à l'avant-plan, un homme entre dans le cadre et semble chercher quelque chose par terre.
Voilà. Il est au milieu des fougères, emmitouflé, avec son sac à dos, son bonnet. Et il marche, du coup, sur ce bout de terrain, à la recherche.
Entre promeneur et joueur, un drôle de vadrouilleur zigzag. Ce vadrouilleur est ni joueur, ni promeneur. C'est un ramasseur de balles. Des balles pas comme les autres. Un ramasseur pas comme les autres. À l'aide de son caddie, il rentre chez lui pour laver et ranger ses balles. Il sépare les balles par marque. Nike, Callaway, Nixon... et encore tant d'autres. Les emballe pour les revendre à ses joueurs avides de faire des économies. Rejeté de sa famille pour ses choix, désirs, orientations, cet homme qui ne voyait que d'un œil vivait seul. Une petite pensée pour lui, lui qui est mort seul.
C'est donc un poème extrait de... du film, du coup, Atelier Urbain, Escapade chez les Escapés. Et ce poème, c'est un poème de toi, Jonathan. Est-ce que tu veux un peu nous expliquer sa place dans ce film
Sa place dans le film, en fait, c'est la différence totale des joueurs de golf, de cette personne qui ramassait les balles. Donc, il continue à jouer, quitte à ce que cette personne prenne une balle sous la tête. Donc, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur une indifférence totale de la société envers une seule personne. Donc, je parle du fait qu'il a un œil. Il a fait une demande à la Vierge Noire, il y a 20 ans quand même, hein, pour avoir une compensation ou un revenu de la Vierge Noire pour handicap parce qu'il avait perdu un œil. Et la réponse, elle a été, tant que vous n'avez pas perdu 80% de la vue du deuxième œil, vous n'aurez pas les 66% d'handicap. J'ai trouvé ça très absurde, et ce poème que j'ai écrit, je l'ai écrit pour le film, déjà d'une part, et c'est surtout cette absurdité que j'ai voulu essayer de mettre en avant, l'absurdité de personnes riches qui ne le voyaient même pas, en fait. Sauf quoi, il faut faire des économies. Alors là, ils le voient et ils sont là, et ils sont très heureux. Des fois, ils vendaient les balles de golf 3 fois moins chères que sur l'hippodrome même. Et là, ils étaient tous là, et en 2 heures, ils liquidaient toutes les balles qu'ils ramassaient sur le mois. En 2 heures.
Mais Jonathan Carrier, on peut donner ton nom de famille, tu as aussi publié des poèmes chez Malmström. Je voudrais vraiment te remercier parce qu'on s'est un peu appuyé sur ta poésie aussi, et comme tu étais en contact avec notre projet, ça t'a inspiré de 2 autres textes qui sont aussi dedans, et donc on aura vraiment le plaisir de te retrouver dans ce film Escapade chez les Escapés. Non, on dit juste que tu es dedans et que c'est bien à propos. Donc tu vois, je dis même pas les sujets, quoi. Je dis même pas que tu es un spécialiste en ornithologie, je dis pas non plus que tu as un point de vue sur les bâtiments de tours et taxis et tout ça, mais tout ça, c'est des choses qu'on pourra trouver. Je vous propose d'écouter un retour d'expérience de Rislaine Charaf, qui est co-réalisatrice du film, qui a vraiment pris en charge aussi un peu comme Charles et moi, la partie investigation et autres. Donc elle était très fréquemment dessus. Et là, son interview, ça va vraiment au sujet de ce film, de son parcours dans le film.
C'est un travail d'équipe. Et on a passé des longs moments et des bons. Et franchement, j'ai hâte que vous d'aller le voir dans les écrans.
Qu'est-ce que tu as pu apporter au film, tu penses ?
Peut-être mon expérience, mon parcours, et étant que j'ai tombé aussi. Je ne vais pas dire la précarité, je me suis retrouvée sans logement, dû à un divorce qui était précipité, qui n'était même pas prévu. Et voilà, je dis que personne n'est à l'abri. Et peut-être mon témoignage, ce sera une expérience pour les femmes qui sont là, qui m'écoutent. Et de leur dire qu'il faut quand même assurer leur derrière. Il faut toujours prévoir qu'on peut tomber un jour, mais voilà, donc il ne faut jamais dire qu'on va rester sur le même train de vie, parce que c'est pas acquis. En fait, le film qu'on a été dans les quartiers riches, c'est pour donner une image. C'est comme un miroir, en fait, pour voir ces gens-là, ils vivent dans quoi, c'est quoi les facilités qu'ils ont, c'est quoi les infrastructures qui sont offertes pour eux parce qu'ils sont de la partie bourgeoise, c'est quoi les facilités qu'on a de l'argent et c'est quoi les facilités qu'on n'a pas d'argent. Moi, j'habitais vraiment dans une commune pauvre et je faisais du sport et je voyais la population qui a un petit espace mais vraiment restreint, et par rapport à l'autre bout, ça veut dire la partie bourgeoise, toutes les infrastructures elles étaient vides, et ça veut dire que personne ne les exploitait. Dans les quartiers qu'on a visités, à vrai dire, moi ce que j'ai vu c'était juste des voitures. Des villas et des jardins qui étaient très 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 bien décorés, bien stylés, on va dire, si le terme il est là. Les gens, si on arrive à les croiser, ouais, il y en a dans des quartiers qui sont sympas. Il y en a aussi dans un quartier qu'on a fait un enregistrement, surtout le dernier, dans une caravane, qu'ils nous ont appelé carrément la police. Que notre présence, ça ne leur a pas plu du tout. Ils voulaient même nous agresser par un chien. Et ils voulaient qu'on était sur la rue publique, quoi. C'est-à-dire sur le trottoir. C'est à l'état. C'était pas devant. C'était devant chez eux, mais on filmait pas leur numéro de maison ou leur jardin ou leur intimité. On était dans une genre de bus qu'on avait loué, et c'était pour faire une interview à l'intérieur, et on était très 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 mal vus. En fait, de voir qu'on est en train de se promener, les policiers nous ont expliqué, et ils ont peur des vols, ils ont peur d'introduire des gens qui ne sont pas de leur milieu, et ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'à Louise, une fois, en fait, on était en plein tournage, et la personne nous a dit non, commencez pas à filmer mes vendeuses, c'est quoi ce film ? Et les tas de questions qu'il m'a posées pendant un quart d'heure. Yo, on n'est pas un rejet carrément. Peut-être ça pourrait les toucher à eux, de leur, parce qu'on a été quand même filmé leur milieu. Alors dire que voilà, qu'ils sont plus bien que les autres. Peut-être qu'ils vont se sentir offusqués par rapport à notre syndicat, parce que nous on défend les gens pauvres, qu'ils ont des difficultés, et eux ils ont la facilité à tout avoir. Mais nous, on est là pour dire pourquoi ces gens-là, ils ne sont pas traités de la même manière que vous. On n'est pas là pour vraiment les viser. Rien à voir. C'est juste pour dire à l'État pourquoi ces gens-là, ils ont ces facilités-là, et ces gens-là, ils ont... on est tous citoyens, on a des droits, on a des obligations. Donc je ne vois pas pourquoi on n'a pas les mêmes intérêts ou les mêmes facilités.
Voilà, c'était Rislaine Charaf qui a participé avec nous, avec une douzaine de personnes, à la réalisation collective de ce film des ateliers urbains, Escapade chez les escapés. Le regard des autres, il est vraiment présent, et je me souviens que quand j'ai rencontré le groupe pour commencer à travailler, c'était un des sujets vraiment, vraiment importants. Le regard des autres, c'est comme s'il racontait en fait... une espèce de dégage, une espèce de « je veux pas te voir », qu'est-ce qui vous dit? Oui, Jonathan, tu avais envie de réagir.
Mais en fait, je voudrais réagir sur le mot « peur ». Moi, je me demande si c'est vraiment de la peur qu'ils ont, ou tout simplement c'est une excuse pour exclure les moins riches, les personnes indigentes et tout. Moi, je suis pratiquement certain que c'est pas de la peur, mais simplement ils veulent exclure le monde que... quoi. C'est une exclusion pour moi.
Moi, c'est caractérisé.
Voilà. C'est pas de la peur pour moi. C'est trop facile de dire que le riche a peur de d'autres personnes. Or, quand vous regardez, c'est aussi faute aux riches qu'on se retrouve dans une société d'abord aussi capitaliste qu'on est aujourd'hui. Et ensuite, quand vous regardez que la classe moyenne est en train de complètement s'effondrer, pour moi, c'est pas de la peur, c'est de l'exclusion.
Mais enfin, ça peut être chacun des points de vue. Le point de vue que tu as sur c'est de la faute aux riches dans les interviews de Benoît et d'Isabelle, par exemple, sont plus nuancés par rapport à ça. Ils savent que c'est systémique, mais ils ne voient pas forcément des fautes individuelles. Et par rapport à la peur, ça peut être parfois une peur très, très subjective. J'ai peur, pour moi, de te ressembler. Donc je t'exclus, je ne veux pas te voir, je veux ignorer ta
c'est
détresse.
C'est trop facile.
Mais je pense que, Charles, tu me contredis, mais on a été creusé un petit peu ça aussi chez nous. C'est comme si s'adresser à des immenses ou se mettre à écouter ce que les immenses ont à raconter, on a besoin de transcender cette peur de leur ressembler, parce que les immenses, ils ont un point de vue beaucoup plus réaliste sur la société. Ils savent ce que c'est que se péter la gueule. Ils n'ont pas envie de nier la possibilité qu'on va se péter la gueule.
Donc c'est de la peur ou de l'hypocrisie?
Oui, oui.
Voilà, la question est posée. Hein.
Donc par hypocrisie, des gens plus aisés ou qui se croient plus à l'abri, c'est ça que tu veux dire?
C'est surtout le fait qu'ils préfèrent fermer les yeux sur une pauvreté qui s'accroît de plus en plus et préfèrent se cacher derrière le mot « peur ». Pour moi, c'est plutôt de l'hypocrisie. En tout cas, selon moi, c'est de l'hypocrisie. Nous utilisons le mot « peur » parce que c'est un mot qui fait peur et qui fait en sorte que les gens comprennent tout de suite. Or, je ne vais pas avouer, moi, en tant que riche, que je suis hypocrite. Ce n'est pas possible. Non, s'il vous plaît, j'ai peur de vous ressembler. Pour moi, c'est trop simple, ce genre de discours. C'est tellement simpliste qu'on leur donne encore tellement de crédit que, pour moi, ils continuent à être ceux qui sont encore en... aujourd'hui.
Martin, tu voulais...
Oui, si je...
Pardon,
oui, si je peux surenchérir, je dirais que ça m'a fait un peu penser aussi à la problématique de certains quartiers où on évite la mendicité parce que ça nuit au paysage de tout simplement de la commune, quoi.
Oui, donc, c'est aussi une évacuation politique. Voilà, par Vite Saint-Gilles, voilà, vous ne resterez plus près de votre bon contact.
On dit voilà, il y a de la mendicité dans le quartier, sur la place. Bon, des exemples, hein. Et ça nuit au syndic de la commune et pour les magasins, les quartiers, etc. Et ils essayent que les gens partent. Et pour ça, ils s'adressent évidemment au bourgmestre. Hein. Ils s'adressent aux instances pour dire, tiens, voilà, il faudrait quand même que ça ne se présente pas. Voilà.
Mais donc les commerçants, les acteurs économiques aussi essayent d'envoyer la mauvaise réputation que pourrait donner cette image. Moi, je voudrais quand même dire pour ma part que je vous ai proposé au syndicat des immenses ce trajet-là, parce que je savais que ces inégalités territoriales, elles existaient. Mais au sein des immenses, on m'a aussi souvent, et très honnêtement, je veux le dire, parlé d'autres envies de faire des films sur d'autres sujets. Et pour les reconnaître principalement, il y en a deux. Je pense que la violence du regard des autres, À quoi est-ce qu'il ressemble? Rendez-vous compte qu'on ne vous a peut-être jamais regardé comme on nous regarde. Prenez en compte comment vous regardez, comment vous accueillez la présence d'une personne plus fragile, une personne qui peut avoir des problèmes, plusieurs facteurs. Hein, ça peut être avoir un problème avec l'alcool, ça peut être avoir besoin de mendier, il y a plein de trucs. Et puis le deuxième sujet qui est apparu aussi, et là je me sentais encore moins capable de le traiter. Donc déstabiliser, quand tu parles d'hypocrisie, c'est aussi être mal à l'aise et déstabilisé pour ça. C'est un sujet très fort qui a été proposé sur comment on nous traite au niveau des services sociaux, comment on nous traite au niveau des institutions, quelle est la violence des institutions. Et donc l'originalité de ce point de vue va souvent plus loin que ce que peut faire un petit travailleur socioculturel comme moi. Et je vous encourage, ou j'encouragerai d'autres artistes aussi à travailler avec vous, membres du syndicat des Immenses, parce que votre point de vue, il peut être très très tranchant, comme tu viens de le dire Jonathan, et je te remercie pour ça, mais très très tranchant sur comment la société s'organise autour. D'ailleurs, dans votre thésaurus, il y a les mots cher à
boulot et cher à subside.
Cher à boulot pour les travailleurs, travailleuses sociaux.
Si je peux un peu expliquer en quelques mots rapidement, c'est que cher à subside, donc ça veut dire que sans chez soi, les assos n'auront pas de subsides, donc nous sommes des chairs à subsides, des chairs à boulot, ça va dans le même sens. Sans le sang chez soi, l'assos social, le travailleur social n'aura pas de boulot. Je vous invite à aller sur le thésaurus de l'immensité du syndicat des Immenses, aller voir les définitions, les exemples et les autres mots aussi par la même occasion.
On va devoir aller vers une conclusion. On va rappeler que ce film « Escapade chez les escapés », c'est quoi le sous-titre encore, qui a une bonne mémoire? Les sang chez soi, chez les tout riches. C'est ça.
Joli.
Sera donc présenté en grande première au cinéma des Galeries. Vous pouvez avoir une place gratuite si vous écrivez à réservation@cvb.be. Ce sera le mercredi 22 novembre à 18h30. Si vous êtes immense ou mal organisé, bien posez-vous devant, venez quand même, on essaiera de faire rentrer tout le monde, c'est une grande salle. On a une seconde projection à l'aventure le lundi 27 novembre à 19h. Je voudrais aussi saluer pour ce film les musiques, qui ne sont pas des musiques originales, mais qui viennent d'un groupe qui s'appelle Flig Maskin, musique de Julien de Bormann et Sébastien Wilmans, parce que vous les avez entendues là, elles nous emportent un petit peu là-dedans. Voilà, ça c'était pour un petit peu ce qu'il y avait à dire, et je vais juste vous demander autour de la table si vous avez un petit mot à ajouter sur cette expérience. Je vois Martin qui a un petit sourire sibyllin, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui doit sortir.
Vous avez 30 secondes chacun.
Non, c'était vraiment une chouette expérience, super d'avoir fait ce film. Oui, aussi ce sourire, parce que j'ai un peu vécu ça différemment, le fait d'avoir été à Odergame. Pour ma part, ça a été, bon, c'est pas facile, mais une bonne expérience, tant par rapport aux habitants de ce quartier, de cette commune, mais aussi j'ai eu des très bons rapports par rapport aux assistants sociaux que j'ai pu avoir.
Moi je voudrais te remercier, on va surtout pas dévoiler ta séquence qui est clé dedans, mais merci beaucoup pour ce que tu nous fais entrevoir. Merci. En tout cas dans ce film.
Moi ça a été, je ne connaissais pas les Immenses, je suis très content d'avoir participé à ce film et avoir rencontré les Immenses, c'est un enrichissement personnel.
Eh bien, merci aussi, Charles, pour tout ton engagement tout au long de ce projet.
Ben oui, moi de même, je parlerai d'enrichissement personnel aussi, dans ce sens où j'ai été amené à me faire des réflexions sur ma ville, finalement, et que ça me donne envie de poursuivre et de faire encore d'autres... de faire encore part d'autres observations que je continue à faire maintenant régulièrement. Parce que j'ai attrapé le virus de maintenant regarder tout ce qui se passe autour de moi et je me fais des réflexions sur tout maintenant.
Daniel, qui est le sociologue en trame de ce film. Jonathan, merci. On a l'occasion de te voir sur pas mal de scènes bruxelloises ou de te lire.
En tout cas, pas pour le moment, parce que j'ai préféré mettre un pas en arrière. Moi, je vais revenir au film et être un petit peu moins optimiste. Moi, j'ai trouvé ce film très déstabilisant. J'ai trouvé que le film avait beaucoup de mal à aller dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de gens qui ont préféré s'échapper de nous, fuir le film. Donc, est-ce que c'est une expérience à refaire? Oui, quand vous voulez. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas une expérience qui, moi, m'a spécialement plu. Ça m'a beaucoup plus déstabilisé, ça m'a fait mal, ça m'a choqué pour certains propos que j'ai entendus de certaines personnes. Et voilà, si vous voulez venir voir le film, c'est dans une mentalité où vous allez voir la réalité des choses. Donc pour moi, c'est déstabilisant et très intéressant de toute façon. Ça reste très intéressant.
C'est donc un film documentaire, on éprouve et puis après on réfléchit. Moi je voulais vous dire un tout grand merci pour ce que chacune qui ne sont pas là et chacun avait apporté à ce film et tout ce que vous m'avez appris. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi de t'intéresser à nous, au Syndicat des Immenses.